Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Raphaël Constant.
Bonjour et bienvenue dans Priorité Santé. Aujourd'hui, émission au masculin, puisqu'on va parler d'une partie du corps des hommes, d'un organe lié à l'intimité, la prostate. Cette petite glande masculine située au cœur des systèmes urinaires et génitales. Et justement, ce sont le plus souvent des troubles de la fonction urinaire qui alertent les hommes sur la santé de leur prostate. Un organe assez méconnu et pourtant essentiel à l'activité sexuelle et reproductrice de l'homme. Changement de volume, douleur, trouble de l'érection, c'est simple. Symptômes, souvent liés à l'âge, doivent pousser à consulter, même si la question reste taboue. Tabou parce que la prostate, pour beaucoup, est un symbole de virilité. Tabou aussi parce qu'aux yeux du grand public, elle est associée au vieillissement et au cancer de la prostate, premier cancer masculin. Pourtant, de nombreux cancers de la prostate ne sont pas agressifs. Et quels qu'en soient les troubles, des solutions existent, un dépistage et des gestes de prévention aussi. Alors aujourd'hui, nous vous proposons dans Priorité Santé de poser toutes vos questions en direct avec des spécialistes à votre écoute. Pour nous joindre, notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. Adénome, prostatite, cancer, quelles sont les différentes atteintes de cette glande masculine? Quel examen? Quel dosage pour rechercher une anomalie? Quels sont les traitements adaptés et accessibles selon les régions du monde? Pour répondre à toutes ces questions, on vous retrouve en studio, professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et professeur à l'université Paris-Cité. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Togo le professeur Machona Chilabalok Pacha, chef de service d'urologie du CHU de Cara, vice-doyen de la faculté des sciences de la santé de l'université de Cara et directeur du laboratoire de recherche en cancérologie de l'université. Et en fin d'émission, nous parlerons du lien entre réchauffement climatique et maladies cardiovasculaires avec la fondation Cœur et Recherche qui travaille à identifier les populations les plus vulnérables et à adapter les politiques de prévention. Nous serons en ligne avec la professeure Marianne Zeller, professeure de physiologie à l'Institut de recherche cardiovasculaire du CHU de Dijon et membre du conseil scientifique de la Fondation.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Desgrandchamps, une fois n'est pas coutume, pour commencer cette émission, une petite leçon d'anatomie si vous le voulez bien. Où se trouve la prostate et quel est son rôle? À quoi elle sert?
Alors, la prostate se situe à la sortie de la vessie. Juste au-dessus du canal de l'urètre. Donc, c'est derrière le pubis. On la voit pas, la prostate, évidemment. Hein. Et donc, elle fait la jonction entre la vessie au-dessus et le canal de l'urètre qui, après, va sortir par la verge. Et donc, le flux d'urine traverse la prostate, ce qui fait que dès qu'il va y avoir une maladie prostatique, il peut y avoir une modification du flux d'urine.
Donc, ça veut dire aussi qu'elle grossit.
Quand elle grossit, on pourra le voir, il y a différentes maladies, vous l'avez dans votre introduction très complète, il y a soit l'infection, soit la prostate qui grossit de façon bénigne, soit le cancer. Et donc, tant que cette maladie de prostate n'influe pas sur le flux de l'urine, il n'y a pas de symptômes. Voilà. Donc, la prostate, c'est donc située sous la vessie. La prostate ne sert qu'à la reproduction. Elle ne sert pas à l'érection, par exemple. Hein, quand on est opéré de la prostate, les érections persistent. C'est les nerfs de l'érection qui passent de chaque côté. Mais la prostate ne sert qu'à la reproduction. Elle sert à la fabrication du sperme. C'est juste avant l'éjaculation. La prostate se ferme en haut et en bas, fait une petite cavité en son sein. Et les trois composantes du sperme s'y mélangent, qui sont bien sûr les spermatozoïdes, mais c'est que 10% du volume du sperme. Le liquide de la prostate lui-même, c'est 20%. Et ce sont les vésicules séminales qui font 70%. Donc tout ça est mélangé. Et au moment de l'orgasme, le sperme sort par contraction de la prostate de haut en bas dans le canal urinaire, puisque la prostate entoure le canal urinaire.
Alors, vous avez expliqué que la prostate peut grossir. Est-ce que les hommes le voient ?
Alors, ils le voient, ils le sentent, seulement si ce grossissement rétrécit le flux de l'urine. Si la prostate, de façon très simple, grossit vers l'extérieur en laissant passer l'urine à l'intérieur de façon libre, personne ne le sait. Et la prostate la plus grosse du monde, je crois, fait presque 3 kilos chez un Espagnol de Barcelone. Ça avait été publié il y a peut-être 7-8 ans. Eh bien, cet homme ne souffre de rien. On se demandait quelle était cette tumeur. C'est bénin. Et il vit encore avec sa prostate.
Alors, une première question qui est envoyée sur notre numéro WhatsApp, c'est celle de Nadjombe au Togo qui nous demande « Quels sont les signes précoces à surveiller chez un homme de plus de 50 ans ?»
Alors, les signes précoces, donc le signe le plus précoce de maladie de prostate, c'est de se lever la nuit plus qu'une fois. 80% des hommes et des femmes en France, je suppose au Togo aussi, se lèvent une fois par nuit. C'est dû au vieillissement naturel, c'est dû à ce que l'on boit, c'est dû au stress éventuel. Bon, une fois par nuit, c'est considéré comme normal. Deux fois par nuit, il faut consulter et c'est comme ça que l'on fait le diagnostic d'adénome de la prostate le plus souvent.
Une sensation aussi peut-être de ne pas avoir complètement vidé sa vessie.
Après oui, il y a d'autres signes, mais le plus précoce est de se lever deux fois. Après, les signes, c'est des envies irrépressibles d'uriner, c'est un jet qu'il faut attendre un petit peu, un jet un peu hésitant qui se coupe, éventuellement des gouttes retardataires aussi, on croit que c'est fini et ça continue, et puis des missions fréquentes la journée.
Voilà, ça sont les signes. Du sang dans les urines aussi ?
Non. Sang dans les urines, c'est plus un signe de tumeur de vessie. Ça peut être la prostate, mais c'est ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a éliminé toutes les autres causes, les tumeurs, les calculs, et qu'il n'y a qu'une grosse prostate, on dit que alors c'est la prostate qui saigne comme on saigne du nez. Comme la prostate est grosse, il y a des grosses varices dessus, et puis de temps en temps, il y a une veine qui claque, et puis on saigne. Mais il faut avoir éliminer tout le reste, donc un uroscanner, une endoscopie, pour être sûr qu'il n'y a pas un petit cancer du rein, pas un petit polype de vessie, pas un calcul qui traîne.
Et en fonction des affections, est-ce qu'il peut y avoir des douleurs ? Est-ce que ça peut être un signe ?
Les douleurs, en principe, les affections prostatiques les plus courantes, qui sont la prostate qui grossit et le cancer de la prostate, ne font pas mal. L'affection de la prostate qui fait mal, c'est l'infection. Qu'elle soit aiguë, on a de la fièvre, ou chronique, c'est une douleur entre les bourses et l'anus qui irradie dans la verge. Il n'y a pas de fièvre, mais c'est une douleur.
Alors on a commencé à en parler, professeur Desgrandchamps, quelles sont les atteintes, les différentes atteintes de la prostate ?
Alors, il y a trois maladies. Par ordre de fréquence, je pense que le plus fréquent et de loin, c'est la prostate qui grossit à partir de 50 ans, sans qu'on sache pourquoi, chez tous les hommes, elle grossit. C'est presque anormal d'avoir une prostate de taille normale à 80 ans. Ça grossit tout le temps. Mais il n'y a que 20% des hommes qui en souffrent parce que le grossissement, sinon, se fait vers l'extérieur et laisse passer l'urine. Donc, l'adénome de la prostate, c'est la pathologie la plus fréquente. Arrive après le cancer de la prostate, vous l'avez très bien dit dans l'introduction, il y a deux formes différentes de cancer. Une forme qui est bénigne, si l'on peut dire, qui est une forme naturelle de vieillissement de la prostate, comme les cheveux blanchissent ou tombent, il y a des petits foyers de cancer dans la prostate, qui ne demandent rien à personne et il faut ne pas traiter les gens. Et puis il y a des cancers plus agressifs, malheureusement, et on en meurt régulièrement en France encore, malheureusement. Et puis, plus rarement, sont les infections. Autant l'infection urinaire, elle est fréquente chez la femme, autant l'infection urinaire de l'homme, elle est rare parce que la vessie est protégée de l'extérieur par la longueur de l'urètre. Et donc, les infections urinaires de l'homme sont toujours des infections de la prostate parce que la prostate se situe juste avant la vessie et donne de la fièvre, ce qu'on appelle la prostatite aiguë, alors que la cystite de la femme ne donne pas de fièvre. Voilà. Et donc ça, c'est un peu plus rare. Et à égale rareté, c'est la prostatite chronique, c'est-à-dire une infection aiguë de la prostate insuffisamment soignée, qui se pérennise et qui finit par faire des douleurs, et parfois des douleurs qui irradient dans la verge, juste une douleur du gland, et on prend les hommes pour des fous, ils ont mal au gland, ils n'ont rien, en fait, ça vient de plus haut, ça vient de la prostate.
Donc un diagnostic précoce pour une bonne prise en charge, comme toujours. Quels sont les examens du coup de dépistage que vous préconisez ?
Alors, l'examen de dépistage clé, c'est le dosage du PSA. Le PSA, c'est une substance qui est un sucre qui circule dans le sang, mais qui est sécrété par la prostate pour liquéfier le sperme après l'éjaculation. Donc il y a énormément de PSA dans le sperme, c'est plus de 1000 nanogrammes par ml, et de façon naturelle, il y a toujours un petit peu qui sort de la prostate, parce que la prostate n'est pas une poche étanche, donc il y a toujours un peu de PSA qui sort. Sauf quand il y a une maladie de prostate, que ce soit une infection, une grosse prostate, un adénome ou un cancer, il y a un peu plus de PSA. Et donc le PSA peut être dosé, et quand le PSA est élevé, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer, mais c'est un signal d'attention pour la prostate. Et il faut faire les examens nécessaires pour savoir s'il y a un adénome ou un cancer ou une infection. Donc il y a bien sûr l'analyse d'urine. Et après, l'examen roi, c'est une radio qui est l'IRM, qui permet de savoir s'il y a un cancer ou pas et où se situe. Et ça permet également de bien calculer le volume de la prostate. Donc, les étapes, c'est PSA, puis après IRM, dans les pays qui disposent d'une IRM Exactement. Facilement, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers, professeur Desgranchons ?
Il y a des facteurs de risque particuliers pour l'adénome de la prostate, certainement, mais c'est tellement fréquent, l'adénome, qu'on ne les distingue pas, mais il y a des études sur des jumeaux homozygotes qui montrent que, alors que c'est fait aux États-Unis, alors qu'ils sont, qu'ils vivent dans des coins très différents des États-Unis, de niveau social différent, eh bien, si un est opéré de la prostate, l'autre a plus de chances d'être opéré de la prostate que n'importe qui d'autre dans la population. Donc, pour l'adénome, il y en a sans doute, mais on ne les connaît pas. Pour le cancer de la prostate, il y en a, un peu comme pour le sein, il y a des facteurs génétiques qui augmentent le risque de cancer de la prostate. Ça représente peu, peut-être 10% des cancers de la prostate. Sinon, le facteur majeur de risque de cancer de la prostate, c'est l'alimentation. Plein d'études ont montré qu'entre les populations asiatiques et les populations occidentales, et des migrants asiatiques qui viennent, par exemple, en baie de San Francisco, le risque de cancer augmente parce que l'alimentation change, les gènes sont les mêmes, mais l'environnement est différent. Et donc, c'est les graisses saturées d'origine animale, surtout, qui sont dangereuses.
Et justement, l'environnement ou le tabac, par exemple, est-ce que ça peut être des facteurs ?
Le tabac fait rien, du tout. Ça provoque des tumeurs de vessie, donc si c'est une raison de plus pour ne pas fumer, il faut l'entendre.
Une question d'un auditeur, c'est Tierno Souleymane en Guinée, qui vous demande, professeur, est-ce qu'une période d'abstinence sexuelle de plusieurs années peut provoquer une maladie de la prostate ?
Alors, c'est à l'envers qu'il faut voir les choses. Donc, dans ce sens-là, je ne sais pas, mais il y a énormément de littérature sur l'activité sexuelle et le cancer de la prostate.
Énormément de questions d'auditeurs aussi, je peux
Puisque, en fait, un cancer de la prostate, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour attraper ça ? Sous-entendu, on est puni par là où on a péché. En fait, c'est le contraire. Plus on éjacule fréquemment, moins il y a de cancer. Alors, de là à penser qu'une abstinence prolongée provoque un cancer de la prostate, je crois qu'on ne peut pas faire le lien.
Les fausses croyances, on va en reparler. Ouais. Mais tout de suite, un premier témoignage en direct.
RFI à Abidjan.
On accueille Marie à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Marie, vous nous appelez parce que vous êtes inquiète pour votre mari qui a 56 ans. On vous écoute.
Oui, mon mari, il a 56 ans et mon beau-père, il est décédé de cancer de la prostate. Donc, mon mari, il sort chaque fois la nuit pour pisser. Et il a une douleur vraiment au bas ventre. Il a une douleur au bas ventre qui lui fait très mal. Donc, quand j'ai appelé sa soeur pour lui dire, elle m'a dit, je lui dis d'aller faire un test de prostate.
Un dépistage.
Parce qu'il a peur.
Il vous a dit pourquoi il a peur, Marie ? Il vous a expliqué ? Vous en avez parlé ensemble ?
Lui, il a dit que parce que son papa aussi est décédé de cancer de la prostate, donc il a peur de découvrir ce qu'il y a.
Il a peur du diagnostic, d'accord. Est-ce que vous avez des questions précises pour le professeur Desgranchons, Marie ?
Oui, moi, ma question est, quels sont les premiers symptômes ? Parce que bon, je ne connais rien sur la maladie de la prostate.
Alors, ça, on vient d'en parler.
Oui. Je ne sais pas comment m'y prendre vraiment pour en parler avec ça. Elle dit, parce que je ne connais pas les symptômes.
Oui, bien sûr.
Quels sont les premiers symptômes? Et aussi, est-ce qu'il y a un traitement pour ça?
Oui.
Et est-ce qu'aussi, il doit vraiment aller se faire dépister?
Merci.
Alors, je peux vous répondre, madame, en disant que, en fait, la douleur qu'a votre mari ne ressemble pas à un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, ça fait pas mal, sauf à un stade très avancé de métastase. Et dans ces cas-là, c'est des douleurs pas forcément dans le bas-ventre, comme à votre mari, mais une douleur dans une épaule, dans une hanche, à cause d'une métastase osseuse. La douleur qu'a votre mari est associée à des levées fréquents, ressemble plus à une infection chronique de la prostate dont on a parlé, donc une prostatite chronique. Et donc, bien sûr, il faut éliminer un cancer avec un dosage de PSA. Mais il faut également faire une analyse d'urine, et une analyse d'urine un peu particulière que l'on dit après massage de la prostate. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir les sécrétions de la prostate qui ne sont pas forcément présentes dans les urines. Et pour ça, il faut faire un toucher rectal un peu prononcé. En passant le doigt par l'anus, on est juste au contact de la prostate. On écrase la prostate pendant une bonne minute et on demande au patient d'uriner, non pas le deuxième jet comme d'habitude, mais le premier jet. Et le premier jet sont les sécrétions de la prostate. On les emmène au laboratoire, on regarde s'il y a des globules blancs, ça signe le diagnostic de prostatite. l'hépatite. Et surtout, on regarde s'il y a une infection, quel est le germe, et on guérit votre mari. Donc, c'est vraiment un examen qui ne coûte pas grand-chose, hein, qui est très simple à faire, qui est fait partout dans le monde. Simplement, cette analyse d'urine doit être spéciale et doit être faite après un massage de la prostate pour faire sortir les sécrétions de la prostate, parce que se lever la nuit fréquemment et avoir des douleurs dans le bas-ventre, ça ne ressemble pas à un cancer de la prostate, mais plus à une infection chronique de la prostate.
Tout ça, c'est quand même encadré par une équipe médicale, bien sûr. Ce n'est pas lui qui va le faire tout seul.
On ne se masse pas soi-même
voilà,
la prostate.
C'est ça, pour rassurer
l'époux de Marie. Il faut que ce soit un laborantin ou un médecin qui le fasse.
Qu'est-ce que Marie peut dire, quel argument elle pourrait avancer auprès de son époux pour le pousser à aller se faire dépister, à aller se faire voir un médecin?
L'argument pour se faire dépister du cancer de la prostate, d'abord, les gens n'aiment pas être dépistés parce que c'est un peu comme le docteur Knock, vous êtes bien portant, vous rentrez chez le médecin, vous sortez malade. Et donc, il vaut mieux aller voir les médecins pour, comme vous faites aujourd'hui, savoir quels sont les conseils pour éviter d'être malade. C'est de la prévention. Et dans la prévention, il y a aussi la prévention de l'aggravation des maladies. Et donc, pour éviter de trouver le cancer trop tard, ben, il faut le trouver tôt. Donc, faire les examens nécessaires, même s'il n'y a pas de symptômes.
Voilà, Marie. Merci pour
donc
votre
voilà,
appel.
Analyse d'urine après massage de la prostate.
Et j'espère surtout que votre mari va aller consulter. Tenez-nous au courant. Professeur Desgrandchamps, est-ce que justement les hommes viennent facilement vous consulter? Ou est-ce que vous constatez une certaine gêne à évoquer justement les problèmes
de plus intimes? De plus en plus. Il y a une dizaine d'années, c'était encore leur épouse qui les poussait en consultation. En disant, moi, s'il n'y avait que moi, je ne serais pas venu. Voilà. Mais, et puis aussi, la petite réticence... par peur d'un diagnostic d'opération. C'est que quand un homme rentre dans un cabinet d'urologue, il a peur qu'on touche à sa prostate, naturellement. Et donc, fréquemment, l'attitude, c'est de dire, voilà, moi, j'ai pris rendez-vous, mais entre-temps, ça va beaucoup mieux. Voilà. Hein? Mais bon, c'est humain, il ne faut pas leur en vouloir.
Donc, ça veut dire quand même qu'une partie de votre travail, c'est de rassurer les hommes sur ces questions, justement, pour avoir des informations précises pour un meilleur diagnostic.
C'est la base, notamment pour ce dont vous avez parlé, les cancers pas dangereux. C'est-à-dire que, pour en deuxième avis, je vois énormément de patients chez lesquels un premier avis a proposé un traitement alors que ce n'est pas nécessaire. Et donc, on a beaucoup de mal après, puisque quand un homme a un diagnostic du cancer de la prostate, il est complètement sidéré. C'est énorme. Parce qu'il n'a pas de symptômes. S'il avait un cancer du poumon qui crache du sang, il sait qu'il est malade. Là, il n'a aucun symptôme. On lui dit qu'il a un cancer, qui met en jeu sa virilité, qui met en jeu son pronostic vital. Et il n'entend plus rien. Donc la première étape, c'est de tranquilliser, de rassurer les gens.
Vous restez avec nous. On va continuer à donner la parole aux auditeurs de l'émission. On se retrouve juste après ce titre de notre bibliothèque musicale. C'est Cora de Pongo sur RFI.
Mano, 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 mano
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI, émission consacrée aujourd'hui aux affections de la prostate. On parle symptômes, diagnostics en votre compagnie, professeur François Desgrandchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et évidemment, la parole est à vous, chers auditeurs. Je vous propose un témoignage qui nous a été envoyé du Tchad. C'est celui d'Abakar qui nous a laissé un message vocal et on a modifié sa voix pour des raisons d'anonymat.
Bonjour. Moi, c'est Abakar, âgé de 30 ans, depuis N'Djamena, souffrant de l'hémorragie et polakyrie depuis l'enfance. J'avais commencé la consultation à 19 ans, depuis 2014. On m'a mis sous ditropan pendant plusieurs mois, mais il n'y avait pas eu de changement, donc j'ai dû abandonner. Et j'avais repris la consultation en 2024 chez un autre médecin. Il m'a fait la cystoscopie et le résultat était en faveur d'une prostatite chronique. C'est l'hypertrophie des lobes latéraux associée à une stenose libre de l'urètre pénien. Puis il m'a prescrit aussi des ditropans 5 mg, 2 comprimés le soir au coucher pendant 3 mois et aussi permixon sans sodium, gélule, aussi 2 gels le soir pendant 3 mois. Il n'y avait pas eu de changement, donc j'ai dû abandonner aussi. Mais ma question est donc, est-ce la prostatite est à l'origine de cette hémorragie? Et aussi, est-ce qu'il y a la prise en charge pour ces cas? Merci. Et par ailleurs, je signale que je suis hyper tendu et j'ai une néphrite optique gauche avec une cécité depuis 2007. Et récemment, j'ai développé une masse rénale tissulaire atypique gauche. Le résultat de l'angio-scanner des artères rénales a montré un syndrome de jonction polyurétale gauche par compression de l'urètre polaire inférieure et une petite masse corticale polaire gauche de 33 mm aussi. Je vous remercie.
Professeur Desgrandchamps, quelques éclairages pour nous aider à décrypter peut-être, à traduire les mots d'Abakar.
Le pauvre Abakar, il a beaucoup de pathologies associées. Alors, la principale, c'est l'énurésie, la polakyrie. Si les termes sont bien utilisés, ça veut dire qu'il urine la nuit pendant son sommeil et polakyrie, c'est qu'il urine trop souvent la journée. À 30 ans, et ça avait commencé à 19 ans. Donc, on peut envisager un diagnostic principal qui est l'hyperactivité de la vessie. On fait attention au fait qu'il a une cécité de l'œil gauche depuis 2007. On ne sait pas quelle est la nature, mais ça peut évoquer une maladie neurologique comme une sclérose en plaques, bien que 19 ans soit un peu jeune. Toujours est-il que l'examen qu'il faut faire, c'est un examen qui s'appelle l'examen urodynamique, qui est fréquemment fait pour savoir quelle est la nature exacte des problèmes urinaires, qui consiste à passer un cathéter par la verge jusque dans la vessie, à remplir la vessie comme si elle se remplissait d'urine. Tout le long du cathéter, il y a des capteurs de pression et on voit comment la vessie réagit. Dans l'hyperactivité de vessie, comme par exemple le cas de M. Abakar, dans ces cas-là, la contraction de la vessie c'est un gros muscle, va arriver après 50 ml ou 100 ml de remplissage, alors que chez quelqu'un qui n'est pas malade, la vessie va commencer à se contracter à 250, c'est le premier besoin. Donc ça, c'est le diagnostic de vessie hyperactive. Si les médicaments ne marchent pas, il y a après le botox ou la neurostimulation tibiale, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le diagnostic se fera par le bilan urodynamique. Ce n'est pas une prostatite chronique. La prostatite chronique, c'est douloureux avant tout, hein, une douleur entre les bourses et l'anus. Et puis, ce n'est pas non plus une sténose de l'urètre, puisque l'endoscopie a été faite et ne trouve pas de sténose. Donc, a priori, c'est plutôt une hyperactivité de vessie, soit une maladie neurologique, soit une dyssynergie vésico-sphinctérienne, c'est l'autre aspect, c'est qu'en fait, c'est très psychosomatique. Les habitudes sont prises, les patients, c'est à leur corps défendant, mais ne peuvent pas se retenir alors qu'il n'y a aucune maladie. Mais pour en faire le diagnostic, il faut absolument cet examen qui est l'examen urodynamique.
Le diagnostic, le traitement adapté. On prend maintenant la direction du Cameroun.
RFI à Douala.
Où on accueille Aurel qui nous appelle de Batier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Aurel, vous nous appelez au sujet de votre papa qui a un cancer de la prostate, c'est ça?
Oui, madame, c'est ça.
On vous écoute. Quand est-ce qu'il a été diagnostiqué, votre papa?
Il y a de cela 2 ans. Oui, et puis on l'a diagnostiqué, puis on a constaté que c'était un cancer de la prostate. Mais les premiers symptômes que lui il faisait à la maison, c'était qu'il avait mal au bas-ventre. Il avait mal au bas-ventre et puis il avait du mal à uriner. Mm-hmm. Et puis nous sommes allés à l'hôpital. Ils ont fait un test de diagnostic. Ils ont vu que c'était une prostate, un cancer de la prostate avancé. Et puis, on a fait l'échographie. Ils ont vu qu'on devait lui mettre une sonde urinaire. Et puis, on devait faire 12 opérations.
Et c'était quoi comme opération? Est-ce que vous savez, Aurèle?
Ils ont dit qu'elle devait d'abord retirer ses testicules. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis, ils ont fait la première opération, ça s'est bien passé. Et puis, au moment de faire la deuxième opération, il n'y avait pas les moyens. Et puis, nous sommes à la maison depuis 4 mois. Et chaque fin du mois, nous allons à l'hôpital pour vérifier l'évolution de la maladie.
Donc il est suivi, d'accord. Et financièrement, c'est compliqué pour vous, cette nouvelle opération, c'est ça?
Si, c'est ça, madame, c'est ça.
Professeur, quand une opération n'est pas possible, est-ce qu'un traitement hormonal, par exemple, s'il est moins coûteux, peut permettre de guérir ce type de cancer?
Oui, apparemment, d'après ce que nous dit Aurèle de son papa, c'est le traitement qu'il a eu. Enlever les testicules, ce qu'on appelle orchidectomie, c'est enlever la pulpe du testicule qui sécrète la testostérone, la principale partie de la testostérone, et la prostate dépend de la testostérone pour vivre. Et donc, s'il n'y a plus de testostérone, la prostate dégonfle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est le traitement hormonal de base. Maintenant, il y a des traitements hormonaux plus sophistiqués, mais qui ne sont pas forcément disponibles, qui agissent directement sur la sécrétion par la cellule du cancer de la prostate de testostérone. Mais de façon très simple, l'orchidectomie qu'a eu le papa de Aurèle, c'est le bon traitement. Après, peut-être que ce qu'on lui propose comme deuxième opération, c'est une intervention qui va consister à gratter l'intérieur de la prostate pour enlever la sonde vésicale. Peut-être que c'est ça.
Merci en tout cas pour votre témoignage, Aurèle, professeur Desgrandchamps, sur ce sujet justement. Il existe, on peut le dire, plusieurs stades d'évolution du cancer?
Oui, bien sûr, en fonction de l'extension dans le corps. Il y a le stade localisé, le stade loco-régional, le stade métastasé. L'intérêt de. Enfin, comment dirais-je? Il y a eu énormément de nouveaux traitements pour le cancer métastasé et localement avancé, énormément. On ne soigne plus les gens comme on les soignait il y a 5 ans, avec des nouveaux médicaments qui ont des résultats époustouflants, qui sont justement ce qu'on appelle les ARPI, androgène récepteur pathway inhibiteur. Qui sont en fait toute une gamme de nouveaux médicaments. Il faut savoir que le cancer de la prostate dépend des hormones pour vivre. Et donc, on l'a dit pour le papa d'Aurèle, on supprime les hormones, le cancer fond. Mais au bout de 2 ans, une fois sur deux, le cancer repart parce que les cellules cancéreuses elles-mêmes sécrètent leur propre testostérone. Et ces nouveaux comprimés, en fait, agissent sur cette sécrétion propre. Et donc, il y a des rémissions prolongées très, 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 très longues de cancers métastasés qui, sinon, auraient évolué beaucoup plus défavorablement.
Joseph à Douala devait participer en direct, mais il n'a pas pu se rendre disponible ce matin, donc je vais me faire sa porte-parole. Il a 62 ans et il fait chaque année un bilan de santé dans le cadre du travail. Et il nous dit, je le cite, « Il y a 3 ans, le médecin m'a dit que ma prostate avait pris du volume alors que je ne sentais rien. Ce n'était pas alarmant, mais il m'a prescrit un alpha-bloquant, c'est donc un médicament qui permet de lutter contre la contraction des voies urinaires. Et au dernier examen, il y a un peu moins d'un an, le volume avait baissé. L'urologue m'a même dit que j'étais en dessous des chiffres normaux pour mon âge et que c'était très bien. Mais il m'a conseillé de continuer à prendre le médicament. Par contre, depuis 1 an et demi, je ressens une gêne urinaire qui ne passe pas et j'ai l'impression que ma libido a baissé. Alors la question de Joseph, pour vous, professeur, est-ce qu'il serait possible que ce soit les effets secondaires du médicament? Autrement dit, de façon plus générale, est-ce que les traitements médicamenteux peuvent causer des effets secondaires?
Alors oui, malheureusement, les médicaments peuvent causer des effets secondaires. C'est toujours une balance bénéfice-risque entre le bénéfice du médicament et les effets secondaires. Dans l'histoire de Joseph, il y a quelque chose qui est surprenant parce que les alpha-bloquants ne diminuent pas la taille de la prostate. Donc c'est sans doute plutôt une erreur de mesure. Ce qui est aussi surprenant, c'est que on lui donne depuis 3 ans un médicament alors qu'il se sent bien.
Il va bien.
Et on ne traite en fait, l'adénome de la prostate se traite pas. C'est pas parce qu'on a une prostate qui est grosse que c'est une maladie. C'est normal, c'est lié à l'âge. On ne traite qu'en de symptômes. Donc peut-être qu'à cette époque, au départ, il n'avait pas besoin de médicaments, mais maintenant, il nous dit qu'il ressent une gêne urinaire. Et s'il ressent une gêne urinaire à cause de son adénome et que, malgré le médicament, il faut changer de traitement. Donc il y a plusieurs alpha-bloquants, certains peuvent être plus sensibles que d'autres pour un malade en particulier où la dose peut être différente. Et puis si les médicaments ne marchent pas, c'est là où il faut envisager soit la chirurgie, soit mais ce n'est pas disponible partout. L'embolisation de la prostate, qui est un nouveau procédé qui permet de bloquer les artères de la prostate, à l'inverse d'un stent quand on met dans les coronaires où on dilate l'artère, là, ce sont les radiologues interventionnels qui vont boucher les artères de la prostate. La prostate a moins de sang, elle diminue un peu, et donc l'urine passe mieux.
Voilà, donc, quel est l'avantage de ce nouveau traitement par rapport à ce qui...
L'avantage de ce nouveau traitement, c'est qu'il n'y a pas d'opération du tout, il n'y a pas d'anesthésie du tout, il n'y a pas d'hospitalisation du tout. Malheureusement, ce n'est pas aussi efficace qu'une opération, mais à peu près un homme sur deux se trouve bien amélioré sans opération. Et donc, la chronologie, c'est les médicaments. S'ils sont mal tolérés ou pas assez efficaces, on en change. Au bout de deux fois, voire de trois fois d'essai de nouveaux médicaments, il faut passer à l'instrumentation, donc soit l'opération, soit l'embolisation, si les symptômes ne sont pas trop marqués, si les vessies se vident bien, si la situation n'est pas trop sévère, on peut proposer une embolisation.
Allez, un dernier témoignage envoyé de Bangui, celui de Christophe, qui nous a envoyé donc un message vocal et on a là aussi modifié sa voix pour des raisons d'anonymat. On l'écoute.
Oui, bonjour, je vous laisse ce message depuis Bangui. J'ai 49 ans. Alors, j'ai une préoccupation de maladie qui est due à des faibles d'urine. J'ai des jets d'urine qui sont très faibles. Et depuis plus de 3 ans déjà, j'ai eu à consulter un urologue qui a eu à diagnostiquer ce qu'on appelle une protrusion, un prostatique. Voilà, donc c'est un IPP. En anglais, on appelle ça comme ça. Donc, ça fait que j'ai des difficultés à uriner. J'urine, mais le jet, parfois, est vraiment faible. Le jet est faible et il y a parfois également des résidus qui restent. Voilà, donc j'ai été consultée. Je suis sous traitement actuellement du Prostalène. C'est le seul médicament, en tout cas, qu'il m'a prescrit, après quelques antibiotiques, bien sûr. Alors, donc, je prends régulièrement du Prostalène qui me soulage un tout petit peu. Alors, donc, ma préoccupation est celle de savoir, cette maladie-là, cela est dû à quoi? Et est-ce que je peux en guérir définitivement? Quels conseils pourrez-vous me donner? Entre-temps, je signale également que je ne fume pas, je ne suis pas vraiment un alcoolique, un peu de verre de vin à table occasionnellement. Et dans ma famille, il n'y a aucune personne qui souffre de maladie de prostate. Mon père, aujourd'hui, il a 80 ans, il vit encore, il n'a pas de maladie, mes oncles aussi, il n'y a personne dans la famille à cette maladie. Alors donc, cette maladie est due à quoi? Et comment est-ce que je peux faire, en tout cas, pour être guéri définitivement, s'il y en a eu? Voilà, ce sont là mes préoccupations pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Que de préoccupations.
Alors, pour répondre à Christophe, la protrusion prostatique, c'est ce qu'on appelle, nous, en français, le lobe médian. C'est une partie de la prostate qui pousse vers le haut, à l'intérieur de la vessie. Et quand la vessie se contracte, ça... applique comme un battant de cloche la prostate et ça bouche la sortie. Et donc, c'est donc un adénome de la prostate, simplement. C'est une forme particulière d'adénome où il y a une grande poussée à l'intérieur de la vessie qui fait battant de cloche et qui bloque la sortie. Le traitement, ce sont les alpha-bloquants, mais ça ne marche pas très bien, donc il en a eu. Peut-être qu'on peut essayer un autre à une dose plus forte. Sinon, le meilleur traitement, c'est l'opération. Dans ces cas-là, on n'enlève que la partie qui bloque, et pour essayer de préserver l'éjaculation, puisque l'éjaculation rétrograde, c'est la seule séquelle des opérations d'adénome de la prostate. On va resséquer ce lobe médian, gratter le lobe médian, rabaisser donc le niveau de la prostate pour que les symptômes disparaissent. Voilà, donc c'est une maladie habituelle, c'est un adénome de la prostate, simplement avec une configuration un peu particulière, et ça s'opère si le médicament ne marche pas.
Merci pour ces analyses. Vous restez avec nous tout de suite, on prend la direction du Togo.
RFI à Lomé.
On retrouve le professeur Machona Chilabokpacha. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien urologue, chef du service d'urologie du CHU de Kara et directeur du laboratoire de recherche en cancérologie de l'université. Professeur, est-ce que vous avez une idée de la prévalence des maladies de la prostate au Togo et de l'âge des patients?
Alors, les chiffres que je vais donner sont des chiffres hospitaliers, parce que nous n'avons pas beaucoup d'études appliquées à la population générale. Et donc, on peut dire que sur le plan hospitalier, ce sont 10% des patients que nous voyons en consultation externe consultent pour des maladies prostatiques. Et généralement, l'âge, c'est autour de 50 ans.
Et quelles sont les affections les plus fréquentes que vous constatez?
Alors, il s'agit principalement de 3 maladies. La prostatite, qui est simplement l'infection de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une augmentation du volume de la prostate. Et troisièmement, c'est le cancer de la prostate.
Et justement, est-ce que les hommes viennent facilement se faire dépister? C'est-à-dire, est-ce que ces troubles de la prostate, c'est vraiment le premier motif avancé par les patients? Ou est-ce qu'ils viennent vous voir peut-être plus pour parler de problèmes qui seraient liés à la sexualité en premier lieu, par exemple? Est-ce qu'il y a une certaine pudeur sur ce sujet?
La plupart viennent parce qu'il y a des manifestations urinaires. Vous savez que les maladies prostatiques s'accompagnent de troubles urinaires. Bien donc, sûr. La plupart du temps viennent parce qu'ils ont soit des difficultés à uriner, soit ils ont une fréquence très importante d'envie d'uriner, ou alors c'est un peu de sang dans les urines. Et donc, ce sont ces manifestations qui les amènent à consulter. C'est rare de voir des patients qui viennent spontanément pour un suivi ou un dépistage. Mmh. Donc, c'est assez rare. Voilà.
Et en ce qui concerne le cancer de la prostate, est-ce que vous diriez que les hommes arrivent à un stade déjà avancé, professeur?
Oui, dans la majorité des cas, la plupart de nos patients viennent à des stades de métastase, c'est-à-dire à des stades où la maladie s'est déjà généralisée. Et dans ces cas-là, bien entendu, la prise en charge devient un peu plus difficile. Mmh. Parce que on ne peut plus faire ce qu'on appelle un traitement curatif. On fait ce qu'on appelle un traitement palliatif, qui consiste à traiter les symptômes du patient et à améliorer la qualité de vie et à également essayer de rallonger la survie.
Et justement, sur ces traitements pour le cancer, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont coûteux au Togo?
La plupart ne sont pas accessibles. On a des problèmes au Togo à plusieurs niveaux. Hein. D'abord, au niveau du diagnostic, il faut dire qu'il y a certaines explorations que nous n'avons pas sur place. Notamment quand il s'agit de faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. Nous n'avons pas, par exemple, la scintigraphie osseuse pour rechercher des métastases osseuses. On n'a pas également le TEP scan, qui est un examen qui est très intéressant dans la recherche des métastases. Ça, c'est sur le plan diagnostique. Mmh. Maintenant, sur le plan thérapeutique, l'accessibilité des médicaments pose problème, surtout sur le plan financier. La plupart des molécules que nous utilisons, par exemple dans le cancer de la prostate, sont très onéreux et c'est parfois même pas disponible sur place. Il faut les commander en Europe. Et donc, ce n'est pas tous les patients qui peuvent se le permettre.
Mais quand même, en message essentiel, est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui vous écoutent que pour guérir, il faut se faire diagnostiquer tôt, pardon, d'où l'intérêt du dépistage, professeur?
Oui, ce sera vraiment notre message à nos patients. La plupart des patients ont l'impression que quand on parle de cancer de la prostate, on ne peut pas guérir. Mmh. Alors qu'on peut être guéri. Il suffit simplement de diagnostiquer le mal au stade localisé. Donc, le message que nous avons à l'endroit de nos patients, c'est quoi? C'est qu'à partir de 45 ans, il faut que chaque Africain, chaque Togolais puisse spontanément aller vers une structure et se faire dépister à la recherche d'un cancer de prostate. Donc, plus tôt on trouve le cancer, mieux on le traite.
On le prend en charge.
Message.
Exactement. Merci beaucoup, professeur Pacha, d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une belle journée à Kara, au Togo. Professeur Desgrandchamps, on arrive au terme de notre échange. Et la prévention, encore et toujours. Quels conseils, quelles bonnes habitudes vous pouvez donner à nos auditeurs pour conserver une prostate en bonne santé le plus longtemps possible?
Alors, il y a deux aspects. Comme l'a dit mon collègue du Togo, il y a l'adénome de la prostate et le cancer de la prostate. Pour l'adénome de la prostate, c'est de faire attention de ne pas prendre de poids et l'activité physique. Il y a une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate. Et le problème, c'est que même quand on maigrit un peu après, la prostate, une fois qu'elle a grossi, elle ne diminue pas. Donc, dans la prévention, c'est vraiment activité physique et attention à son tour de taille. Pour le cancer de la prostate, c'est beaucoup l'alimentation avec des facteurs qui augmentent le risque et des facteurs qui diminuent le risque. Alors, les conseils en alimentation, c'est jamais extrême, c'est-à-dire que c'est pas supprimer ou ne manger que ça, c'est toujours une question d'équilibre. Mais donc, attention de pas être en déséquilibre en ayant trop d'apport de graisse saturée animale, viande rouge grasse, le beurre, le fromage, la charcuterie, les produits laitiers en général. Donc, c'est pas du poison, mais il faut pas en abuser. Il faut également augmenter Donc qui prévient plutôt le risque de cancer de la prostate, les fruits et les légumes, en particulier la tomate, et puis de façon un peu anecdotique, parce qu'il y a quelques publications, mais moins régulières, la tomate c'est vraiment très régulier. Plus on mange de tomates, moins on a de cancer, et moins on meurt par cancer de la prostate. La grenade c'est un peu plus anecdotique, mais un verre de jus de grenade par jour, ça diminue le risque de cancer de la prostate, et les poissons gras qui diminuent le risque également.
Merci infiniment professeur Desgrandchamps pour vos éclairages, vos analyses, et puis surtout d'être venu répondre aux questions des auditeurs et auditrices aujourd'hui de Priorité Santé. Dans un instant, on va parler du lien entre réchauffement climatique et maladies cardiovasculaires. On se retrouve juste après ce morceau, c'est Slow de Wizkid et Anaïs Cardo sur RFI.
Gentle with my words. We know if you pay for time while we can't they rush. Titilala, titilala. Baby, they do what we do, titilala. I lick my shit on top my shit, titilala. Take a time with it, as long as you're fine with it.
Alright, I'll die, but I love me, I'll live it. Can't let you wait on my body. I'll let you go, gonna burden above me. No time to float when you play it. Gotta go slow if I'm going for you. Go slow if I'm going for you. Oh,
I look too. Yes, my everybody they demand. No going fast, they get it before the verse. Constantly mind, you put up body verse. I'm like, I look too. Conquer, you don't conquer me now. How did you get here? The feeling of divine. Make a no lie, I've been waiting for the chance. Take our time now, yeah, for our life. Now you be the star, right? Gentle with my touch, gentle with my words. We know if you pay for time, why we can't they rush? Titilala, titilala. Baby, they do what we do, titilala. I lick my shit on top my shit, titilala. Take the time with it, as long as you're fine with it.
Alright, I'll die, but I love me, I'll live it. Can't let you wait on my body. I'll let you go, gonna burden above me. No time to fall. Go slow if I'm going for you. Go slow if I'm going for you.
Et on est en ligne avec la professeure Marianne Zeller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de physiologie à l'Institut de recherche cardiovasculaire du CHU de Dijon, à l'Université Bourgogne-Europe. Et puis, vous êtes aussi membre du conseil scientifique de la Fondation Cœur et Recherche qui lance 3 projets d'études pour comprendre le lien entre réchauffement climatique et maladies cardiovasculaires. Professeure, tout d'abord, expliquez-nous précisément ce lien entre climat et santé cardiovasculaire. En quoi le changement climatique augmente ce risque de maladie du cœur ?
Voilà, effectivement, il faut d'abord rappeler le contexte des maladies cardiovasculaires. Hein, c'est les maladies neurocardiovasculaires qui touchent donc le cœur, le cerveau, mais aussi les vaisseaux. C'est un enjeu majeur de santé publique puisque c'est la première cause de décès dans le monde. Et ça comprend principalement donc les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, la défaillance du cœur. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces maladies, la majeure partie, pourraient être évitées en agissant sur certains facteurs de risque. Et ça, c'est majeur, c'est le rôle de la prévention. ce fardeau, c'est pas une fatalité. Donc on peut pour une part les prévenir, et parmi les facteurs de risque qu'on peut prévenir, qui sont évitables, eh bien les expositions environnementales sont en train d'émerger de façon assez récente, hein, dans le paysage de la recherche actuelle, notamment la pollution atmosphérique. Mais je crois que vous avez déjà parlé, traité de cette problématique dans vos émissions.
Bien sûr.
En ce qui concerne le changement climatique, donc je ne vous apprends rien, en France, ces 10 dernières années ont été parmi les plus chaudes jamais enregistrées, et on observe notamment une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la longueur des vagues de chaleur pendant l'été.
Et alors justement, est-ce qu'il existe déjà des données de l'impact des températures extrêmes sur la santé cardiovasculaire, en lien avec les projets que vous développez?
En fait, on ne connaît pas très bien encore l'impact de ces vagues de chaleur. On sait qu'elles ont un impact sur notre santé. Pour ce qui est, je vous rappelle d'ailleurs la vague, la canicule 2003 qui a fait plus de 15 000 morts, donc on voit qu'il y a un impact majeur. Par contre, on ne sait pas encore très bien aujourd'hui estimer l'impact sur la santé de notre cœur et sur la manière dont notre système cardiovasculaire s'adapte à ces fortes chaleurs. On a un certain nombre de données, on sait que le corps humain s'adapte assez bien aux variations de température. Pour ce qui est de l'adaptation du cœur et des vaisseaux, lorsque la température s'élève, on sait qu'il y a des mécanismes qui vont faire que la pression artérielle va baisser, le cœur va augmenter sa fréquence cardiaque, et on peut voir apparaître ainsi des troubles du rythme, c'est-à-dire ce qu'on appelle des arythmies cardiaques. D'autre part, on sait qu'il y a certains mécanismes qui peuvent conduire à une inflammation en cas d'élévation de la température, et puis ça peut conduire aussi à une augmentation de la viscosité du sang et donc de la capacité du sang à former des petits caillots, dont on sait que c'est ça qui va être la cause principale des infarctus et des accidents.
Donc l'idée, si on comprend bien, c'est aussi et surtout de présenter des éléments de réponse pour adapter les politiques de santé publique au changement climatique.
Voilà, ce qui est extrêmement important, et à ce titre, il faut saluer l'initiative de la Fondation Cœur et Recherche et de son partenaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour soutenir les recherches, pour mieux comprendre, parce que mieux comprendre, c'est mieux prévenir. On sait que le cœur est davantage sollicité lorsqu'il fait chaud, pour les raisons que je vous ai indiquées. Par contre, on ne sait pas très bien quantifier, préciser l'ampleur de la survenue de ces événements cardiaques, dans le temps notamment. Et donc pour ça, on a besoin de données françaises en particulier, pour caractériser le poids de ces vagues de chaleur sur notre santé cardiovasculaire. Ça, c'est extrêmement important.
Merci d'avoir été en ligne quelques minutes avec nous, professeur Marianne Zeller. Et dans le sillage de vos réflexions, rendez-vous demain pour une émission Santé et environnement. On parlera de l'impact des structures sanitaires sur notre planète et notre santé, comment les hôpitaux et les soignants s'empare des questions écologiques et à quoi va ressembler l'hôpital écolo de demain. Réponse à 9h10 temps universel. Voilà, priorité santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Ophélie Lassen, Louise Calédec, Talim Pouo et Victor Hull à la réalisation. On se retrouve demain, 9h10 temps universel. Et d'ici là, prenez soin de vous. Belle journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.